jour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent autour de la question « Pourquoi les hommes parlent-ils ?» avec notre invité Jean-Louis Dessalles, chercheur en intelligence artificielle et co-auteur des « Origines du langage ».
Salut.
Salut.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui?
Je sais pas ce que tu veux.
Bah dis-moi ce qui te ferait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a?
Mais t'as été tellement gentil avec moi alors qu'à ta place je serais fâchée.
Mais pourquoi?
Tu sais très bien pourquoi.
Pourquoi les hommes et les femmes parlent-ils, Jean-Louis Dessalles? On peut se le demander à l'écoute de cet extrait de film d'Emmanuel Mouret. Est-ce que c'est vraiment pour communiquer d'abord?
Ça serait presque une évidence. Mais en fait, moi, ça ne me plaît pas comme façon d'écrire les choses. Parce que communiquer, ça veut dire communiquer de manière utile. Et si le langage avait évolué pour que nous communiquions de manière utile, des sources de nourriture, ou comme nous l'a dit Bickerton tout à l'heure,
autour de carcasses
d'animaux, etc., le langage serait bien différent de ce qu'il est. En fait, le langage nous sert à intéresser les autres. C'est pas tout à fait la même chose. Nous parlons pour, quand nous racontons une histoire, il est crucial que notre histoire soit intéressante, sinon les autres se détournent de nous. Quand nous argumentons...
C'est pour faire le beau qu'on parle, en poussant un peu.
Le beau ou la belle, pas. Contrairement à ce que l'extrait juste précédent pourrait nous laisser supposer, c'est pas exclusivement pour draguer. C'est pas, même si certains auteurs... le prétendent, il n'y a pas tellement de biais sexuels sur le langage. Quand je disais tout à l'heure 15 000 mots, c'est par jour.
15 000 mots par jour, en moyenne.
En moyenne. C'est un travail publié par des auteurs dans la revue Science en 2007. Le titre de l'article, c'était, je vous le traduis, « Est-ce que les femmes sont vraiment plus bavardes que les hommes ?»
Et la réponse
Et non, contrairement à ce qui a été dit avant.
Merci,
donc c'est entre 15 900 et 16 000. Bon, c'est dans l'épaisseur du trait et on est incapable de dire que... Donc le langage est la chose du monde la mieux partagée, y compris entre les sexes.
Et vous dites même, Jean-Louis Dessalles, que si des extraterrestres, en gros, devaient nous décrire, ce serait comme une espèce causante.
Ah oui, si on nous compare aux autres primates... Bon, nous n'avons pas tellement de poils sur la peau, etc. On a des caractéristiques. On est plutôt franchement bipède. Mais surtout, on n'arrête pas de jacasser. Et ça, ça frapperait un éthologue martien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et surtout, contrairement aux chants d'oiseaux, c'est sans cesse renouvelé. Donc, alors que les chimpanzés, par exemple, les mâles passent beaucoup de temps à montrer leurs muscles, à intimider les autres, nous avons cet étrange rituel quotidien qui consiste à converser, à raconter des histoires, à argumenter. Mais qu'est-ce que ce comportement et pourquoi est-il là? Donc voilà la première question qu'on aurait se posée à propos de l'être humain. Et bizarrement, c'est une des dernières questions qu'on s'est posée à propos de l'être humain.
Alors de quoi parlaient les premiers êtres humains? Alors cette fois-ci, il n'est plus question de proto-langage, mais les premiers hommes. C'est ce que demande et vous demande Yvan Amar, notre spécialiste maison des mots de la langue française. Écoutez la question d'Yvan.
Jean-Louis Dessalles, la question que je me pose sur les origines du langage, c'est sûrement une question très difficile, je ne suis pas sûr qu'on en ait la réponse, mais c'est un petit peu de savoir quel était le style de ce premier langage, le niveau de langue, on peut dire. C'est-à-dire, est-ce que c'était un langage courant, un langage qui devait servir à quelque chose, un langage utilitaire qui pouvait dire « j'ai faim, pousse-toi de là, donne-moi ça », etc. Ou bien, est-ce que c'était un langage rituel, ritualisé, un langage de cérémonie, un langage qui ait quelque chose à voir avec une religion, un début de religion et quelque chose qui marque une inquiétude de l'homme d'une certaine façon.
Votre réponse, Jean-Louis Dessalles, à cette question complexe, d'Yvan Amar.
Oh, d'abord, c'est une excellente question, mais le doigt sur le vrai problème. À quoi sert le langage et à quoi a-t-il servi dès le début? Je dirais que l'immense majorité de mes collègues scientifiques concernés par cette question vont assez passivement considérer qu'effectivement c'était à des fins utilitaires. J'adore la suggestion sur le rituel parce que j'ai un collègue que j'aime beaucoup, Chris Knight. Knight, ça s'écrit comme un chevalier en anglais, qui défend cette idée que le langage est né du rituel religieux. Il a beaucoup d'arguments pour cela. Bon, j'aime bien discuter avec lui. Et moi, j'ai ma propre réponse qui est que le langage est né dès le début pour attirer l'attention vers des phénomènes inattendus. Et pour cela, vous n'avez
donc pas... ça aurait à voir avec l'inquiétude peut-être de l'homme dont parle Yvon Amar ou
l'inquiétude, oui. Il s'agit surtout de dire qu'on est le premier à savoir. C'est quand un journaliste amène des nouvelles à ses auditeurs, il s'imagine pas forcément que les auditeurs sont inquiets et donc on va les rassurer.
C'est pour avoir un scoop. On s'est mis à parler pour
exactement,
être le premier à avoir le scoop.
Exactement. C'est exactement ça. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de tellement de grammaire ni de son, de choses compliquées. Ça peut démarrer beaucoup plus simplement avec un geste. Et les gars, c'est par là que ça se passe. Et avec ça, un geste, même un grognement pour attirer l'attention, ça suffit. Et ce n'est pas une question de capacité. Les chimpanzés ne le font pas. Parce que dans leur espèce...
Ils ne montrent pas.
Michael Tomasello, qui étudie ces questions-là au Max Planck Institute de Leipzig, a très bien montré que les chimpanzés ne montrent pas. Et ils ont toutes les capacités pour le faire. Quand on élève des chimpanzés en captivité et qu'ils veulent montrer ce qu'ils veulent, donc le geste impératif, hein, je veux manger ça, ils le font très très bien. Mais spontanément, ils ne le font pas et certainement pas systématiquement. Dans notre espèce, nous le faisons systématiquement. Les enfants le font systématiquement. Dès qu'il y a un stimulus nouveau dans l'environnement, nous le montrons à nos congénères. Les chimpanzés sont très curieux, ils regardent. Les autres suivent le regard éventuellement, mais il n'y a jamais, il n'y a surtout pas systématiquement l'intention d'attirer l'attention vers la nouveauté.
Et donc vous dites, on le montre, on attire l'attention vers la nouveauté, au lieu de montrer nos muscles finalement, on montre, regardez, c'est moi qui le premier vois ça ou suis capable de vous avertir là-dessus.
Voilà, c'est comme ça que j'aime poser le problème, c'est de dire pourquoi l'information a remplacé le muscle dans nos façons de nous montrer, de nous faire valoir. Ça c'est vraiment et c'est pas marginal, hein, c'est-à-dire encore une fois nous y passons, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais à peu près un tiers de notre temps éveillé, hein, c'est à peu près 6 heures par jour que nous faisons cela, nous attirons l'attention vers la nouveauté et tout ce qui peut être émotionnel aussi, hein, mais les deux vont ensemble,
c'est-à-dire tout ce qui nous arrive à l'extérieur et à l'intérieur, on pourrait
voilà,
dire comme ça.
Disons que reprenons l'image du scoop, hein, le meilleur scoop c'est celui qui est à la fois émotionnel et inattendu. Mais le caractère inattendu est essentiel dans cette histoire.
Et alors, pour rester dans votre théorie, hein, de l'évolution, quel avantage pour celui, justement, qui a le scoop, qui dit les choses à le premier, c'est lui le chef, finalement ? C'est-à-dire que quel avantage pour l'homme de parler ?
Oui, donc voilà, excellente question. Et vous avez raison de dire qu'on se place dans la stricte théorie de l'évolution telle que Darwin nous l'a donnée, c'est-à-dire qu'il faut expliquer l'avantage sélectif de celui qui parle. Parce que si beaucoup de gens considèrent l'avantage sélectif de celui qui écoute, il reçoit des informations, évidemment, c'est intéressant. Mais pour celui qui parle, qui donne des informations... Alors, moi, j'ai une réponse qui n'est pas celle de mes collègues, hein, et qui est même une réponse récente pour moi, je n'ai pas trouvé le premier jour. Mais je me suis demandé à quoi sert l'information, à quoi ça sert de montrer qu'on a des informations. C'est pas l'information elle-même qui compte. Hein. Après tout, nos conversations, les 15 000 mots par jour, ils sont le plus souvent sur des questions absolument futiles, totalement futiles.
Vous, ça sert à rien de parler, mais on n'arrête pas de parler.
On n'arrête pas de jacasser. Et pourquoi ? Mais il y a quand même une règle absolue, il faut intéresser les autres. Donc il faut quand même que ce soit des informations, même si elles sont sur des contenus futiles, il faut qu'elles aient la bonne caractéristique de l'information, c'est-à-dire du scoop. Et pourquoi faisons-nous ça ? Et la réponse que j'apporte est liée à une différence qui a été peu notée entre notre espèce et les autres, mais il y a une différence essentielle et qui est certaine, c'est que notre espèce a inventé le meurtre sans risque. Voilà. C'est-à-dire que nous avons des armes et traditionnellement on dit les armes ça sert à chasser. Les armes ça sert à tuer son voisin sans aucun risque. Et ça n'existe que dans notre espèce.
Attendez, quel est le rapport avec le langage ?
Vous allez venir, vous allez voir l'information. Comment vous protégez-vous si le danger vient de vos amis, de ceux qui vivent avec vous ? Hein ? Comment se protéger ? La seule façon de se protéger, c'est le renseignement. Il faut s'entourer d'individus qui soient des spécialistes de l'information. Et voici pourquoi nous nous montrons à longueur de journée que nous sommes des spécialistes de l'information. Nous le montrons à qui ? À nos amis ou à nos futurs amis. C'est une façon de dire, prends-moi avec toi, tu seras plus en sécurité parce que je vais prévenir le danger. Et le danger, il vient pas du prédateur. Un prédateur, c'est un danger.
Le danger, il vient de l'autre homme, qui a l'arme.
Exactement. Et c'est le danger le pire, parce que il est très difficile à prédire. Donc, en fait, voilà pourquoi la moindre source d'inattendu est un danger potentiel. Et à longueur de conversation, nous attirons l'attention vers l'inattendu.
Et donc, au fond, on parle et on ne cesse de parler, de se parler les uns aux autres pour se protéger d'abord.
Pour montrer qu'on est des bons protecteurs. Hein, c'est pas le contenu de l'information n'est qu'un prétexte. Montrer qu'on a su avant les autres, on peut prendre n'importe quel prétexte pour cela. C'est de dire, oh, t'as vu là-bas, il y a une jolie fleur. Enfin, je l'ai vu avant toi, ou ça peut être plus dramatique que ça. Enfin, j'ai un accident, t'es pas au courant. Récemment, il y a 6 mois, Claude Lévi-Strauss est mort. C'était dans les milieux linguistes ou anthropologiques, c'était un scoop. Mais ce qui était amusant, c'est de voir comment les gens mettaient un point d'honneur à être le premier à l'annoncer à leurs collègues.
À le savoir et à l'annoncer.
À l'annoncer. La nouvelle elle-même a pris tout le monde à aller le savoir peu de temps après.
Donc hein. Moi, je suis bien informé.
Voilà. Je l'ai su avant toi, donc je peux. Du coup, j'en retire une valeur à tes yeux qui est tu peux me prendre comme ami, tu seras comme ça mieux protégé.
É estranho. Eu não sei o que acontece esta noite. Eu te vejo como pela primeira vez.
Encore tes mots, toujours tes mots, les mêmes mots.
Mas você é como uma bela história de amor.
De mots faciles, de mots fragiles.
Jamais termino de ler.
C'est trop beau.
Você foi, é e será.
Bien
sempre
beau.
Minha única verdade.
Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se font ainsi quand on les oublie.
Você é como o vento que faz cantar os violinos. Espalha o perfume das rosas.
Caramel, bombom e chocolate.
Por momento não te entendo.
Esse papo morre. Tu peux bien les offrir à une autre. Qui est plus fin et le parfum de rose. Moi, les mots tendres enrobés de tout ça se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Escuta.
Parole, parole, parole.
Eu te imploro.
Parole, parole, parole.
Eu te juro.
Parole, parole, parole. Parole, parole, encore des paroles. Que tu sais não vão.
Eu me destino a falar pra você. Falar com a primeira vez.
Primeira vez.
Espera.
Tes mots, toujours tes mots, les mêmes mots.
Como eu queria que você me entendesse.
Rien que des mots.
Que você me ouvisse ao menos uma vez.
Des mots magiques, des mots tactiques qui
sont faux. C'est mon sonho proibido.
Oui, tellement faux.
Meu único tormento, a minha única esperança.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie.
As estrelas sobre as dunas.
Parole, parole, parole.
Escuta.
Parole, parole, parole.
Eu te suplico.
Mots magiques ou pas, quand les Ap Mama avec Vincent Cassel en brésilien revisitent Dalida. Autour de la question, pourquoi les hommes parlent-ils ? Avec notre invité Jean-Louis Dessalles, chercheur en sciences cognitives et en intelligence artificielle. nous découvrons les raisons très étonnantes, enfin votre version en tout cas, Jean-Louis de Sales, de la raison pour laquelle les humains s'en sont venus à se donner mutuellement des informations et à passer en gros leur vie à ça. C'est pour se protéger, pour montrer qu'on est le protecteur en fait, et qu'on est le premier à avoir les informations. Les hommes sont de bons journalistes finalement.
Voilà, ça pourrait être un excellent résumé. Tout de même, il y a aussi l'aspect émotionnel que j'ai mentionné tout à l'heure, qui se conjugue avec l'inattendu, hein, le fait de repérer. Donc, effectivement, quand vous avez des amis, il faut montrer, il faut vous montrer à vos amis que le danger ne vient pas de vous. Donc, en fait, l'émotion peut servir à ça, à se rendre prévisible, à montrer qu'on a les mêmes valeurs que l'autre. Et voilà, le langage, tel que nous le pratiquons au quotidien, sert ces deux objectifs principaux.
Et il a plusieurs fonctions, vous dites, le langage. Ça peut être donc des informations, de la communication, un événement. Il a plusieurs fonctions et on parle de plusieurs manières et à plusieurs niveaux différents.
Oui, le langage peut être utilisé à tout, y compris à faire de la poésie, à chanter, à draguer, voilà. Ce qu'on essaie de voir, c'est quelles sont ses fonctions premières. Et moi, je retiens ces deux-là, c'est-à-dire attirer l'attention vers l'inattendu et partager des émotions.
Partager des émotions qui nous sont propres.
Oui, c'est-à-dire ce qui nous tient à cœur. Donc le partage d'émotions, c'est pas tout de ressentir les émotions. L'enjeu avec le langage, c'est d'arriver à les partager. Partager avec qui ? Avec ses amis les plus proches. Et ça, nous le faisons même systématiquement. C'est-à-dire que environ deux tiers des événements que vous ressentez comme émotionnels sont communiqués dans la journée.
Donc, nous sommes une espèce extrêmement sociale et qui a besoin de communiquer, qui a besoin de le dire, dire ce qu'elle ressent.
Exactement. Extravertis, nous sommes des spécialistes, non pas de l'émotion, mais de la publication des émotions. Hein. Donc voilà, ça le partage des émotions est une composante très importante. Et là-dessus, c'est greffé dans notre espèce, notre comportement, qui est l'argumentation, la discussion. Voilà ce que nous faisons en ce moment, là, entre nous, dans ce studio.
Et puis, vous dites aussi qu'il y a des éléments, dans le langage, qu'il y a des éléments de compassion, en fait. Vous dites qu'on veut partager, faire partager ses émotions, et ensuite, il y a une forme quoi, de compassion, d'empathie avec l'autre. Quand il nous l'a fait partager, on peut la ressentir ou...
Voilà, c'est l'enjeu du partage des émotions, c'est d'atteindre l'empathie de l'autre. Et il y a une corrélation quasiment parfaite entre vos liens de solidarité, hein, qui sont vos amis, et le fait d'être capable de partager des émotions avec eux, et tout simplement le fait de parler avec eux. Hein. Le langage, la fonction première du langage, c'est l'établissement et le maintien des liens sociaux, des liens dans notre espèce. Voilà pourquoi il n'y a aucune raison que ça s'applique à d'autres espèces. C'était vraiment une particularité de notre espèce. Alors, ma théorie, c'était que c'était dû à l'existence des armes. C'est pas une théorie c'est une piste. Elle ne fait pas, même dans le petit livre que nous avons publié, le troisième co-auteur, donc on a parlé de Pascal Pic, mais le troisième co-auteur qui est Bernard Victory a un autre scénario à proposer. Donc, voilà.
Pas de réponse, mais quelques pistes. Et pour aller, alors, dans votre sens ou dans le sens de toutes ces pistes qui cherchent les origines du langage, il faut dire que les hommes, même sans mots, arrive à parler. Je vous propose d'écouter un extrait de ces étonnantes langues sifflées, pratiquées notamment dans les îles Canaries. Vous allez même les découvrir en traduction simultanée.
Alors, c'était en todo el mundo hay hombres que hablan silbando. Ce qui veut dire en espagnol, dans le monde entier, des hommes parlant sifflant.
Les hommes parlent en sifflant dans le monde entier. Réaction à cette langue sifflée des Canaries, traduite par le chercheur et bioacousticien Julien Meyer, qui les étudie.
Ah oui, c'est impressionnant de voir quand les êtres humains veulent communiquer, ils emploient tous les moyens possibles. Donc, quand ils sont à grande distance, comme c'est le cas d'une vallée à l'autre, ils ont trouvé qu'ils peuvent pas parler parce qu'on ne les entendrait pas. Donc, ils ont trouvé ce moyen de siffler. Et ça me fait penser aussi au cas des sourds qui pendant longtemps n'avaient absolument pas accès au langage, qui ont eu accès au langage dès qu'on les a socialisés entre eux et qui ont développé spontanément des langues des signes. Et du coup, ça renvoie à la question, mais pourquoi finalement le langage est quasiment partout, parce que la langue sifflée est quand même une exception, pourquoi c'est quasiment partout oral plutôt que gestuel ou autre? Et ça a l'air d'être une question, encore une question qui a l'air évidente. Bah, évidemment, l'oral, c'est tellement mieux.
C'est une question que se posent les chercheurs et les scientifiques.
Oui, mais on se la repose maintenant réellement, on s'aperçoit que c'est faux. Le geste, finalement, est très supérieur à la parole. Le linguiste qui s'appelle Léonard Talmy l'a montré, il montre finalement la bande passante, pour parler techniquement. Après tout, je suis de Télécom Paritech, donc je vais parler en termes
techniques.
Et vous
êtes à la radio, donc allez-y
voilà,
avec la bande passante.
La bande passante du geste est très supérieure à celle de l'oral. Pourquoi ? Et pendant longtemps, je ne me suis pas posé la question. Après, je me la suis posée et j'ai eu une idée. J'étais dans le train de banlieue et j'ai vu des jeunes sourds venir s'asseoir à côté de moi. Donc, voilà, c'est une petite anecdote. Mmh. Ils étaient quatre. Moi, j'occupais un siège. Donc, il y en a trois qui sont assis à côté de moi. Le quatrième, c'est assis à côté. Ils sont mis à parler, mais avec leurs gestes, avec leurs mains. Moi, je faisais semblant de travailler, mais évidemment, j'avais un œil sur eux. Il y en avait trois qui parlaient. Le quatrième, à l'écart, parlait aussi, mais les autres ne le regardaient pas. Il voulait en placer une, comme on dit, mais il n'y arrivait pas. Et je m'en rendais compte, donc les autres devaient s'en rendre compte aussi, mais ils ne le regardaient pas. Et à la fin, le quatrième s'est levé, il est venu vers les autres, leur a touché le genou à chacun. Du coup, ils ont été obligés de le regarder et il a pu parler. Ça m'a rappelé que, finalement, pourquoi le langage est oral, c'est pas parce que l'oralité a des qualités particulières. Elle en a une seule, c'est que, par la parole, vous pouvez violer l'oreille de l'autre. Il ne peut pas s'empêcher de vous entendre.
C'est violent, hein, sans être dans les messes. Voilà. Il y a quelque chose de
parce
violent, en fait, dans le langage.
Oui, c'est une publicité. C'est aussi violent que la publicité. Vous dites, c'est moi qui l'ai vu le premier, c'est moi qui ai su, c'est moi qui ai quelque chose d'intéressant à dire. Et l'oralité est beaucoup plus efficace pour cela. Parce que si vous gesticulez dans votre coin, les autres peuvent faire semblant de ne pas vous voir. Et donc, ne pas prêter attention à vous. Donc, avec la parole, c'est beaucoup plus efficace pour aller vers les autres et leur dire « Non, c'est moi qui l'ai vu le premier. »
Et on le dit, on n'hésite pas à le dire très très fort d'ailleurs, on est une espèce communicante, parlante, qui faisons de la pub. Vous dites que nous sommes une espèce politique. Et c'est en étudiant le langage que vous en arrivez à cette conclusion-là.
Voilà, alors, le fait que nous soyons une espèce politique a été noté par pas mal de chercheurs primatologues. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas les seuls. Les chimpanzés sont extrêmement politiques aussi. Ça veut dire que nous formons des coalitions et c'est vital. Le seul moyen de survivre, quand les autres forment des coalitions, c'est d'entrer dans des coalitions soi-même. Donc les primates, les chimpanzés notamment, forment des coalitions très efficaces.
Mais nous, c'est grâce au langage, par le langage, que nous pouvons former nos coalitions.
Oui, c'est que le critère d'alliance dans notre espèce passe par le langage, essentiellement. Pas seulement, hein, mais essentiellement par le langage. J'ai parlé des mâles chimpanzés tout à l'heure. Évidemment que chez les chimpanzés, il vaut mieux s'allier avec un costaud. Et donc, du coup, ils passent leur temps à montrer leurs muscles. Dans notre espèce, il vaut mieux s'allier avec des gens qui sont au courant de tout, plutôt que de s'allier avec des personnes qui sont toujours les derniers prévenus de tout.
Donc, au courant de tout sont ceux qui parlent bien.
Alors, ils parlent pour le montrer. Ils montrent, le langage est un moyen de montrer qu'on est au courant de tout. Et donc, du coup, pour se faire valoir sur le marché des amitiés. Donc, en fait, nous choisissons nos amis parmi les gens qui nous intéressent. Ils nous intéressent parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire ou des choses émotionnelles à partager. Les autres, toutes choses égales par ailleurs, on va plutôt les fuir.
Et de savoir tout ça, d'avoir étudié tout ça et d'être dans ces pistes de réflexion autour du langage, est-ce que ça vous permet, Jean-Louis Dessalles, de parler à meilleur escient vous-même ou est-ce que ça vous fait porter un autre regard sur la manière dont vous parlez au quotidien, tous les jours ?
Voilà, c'est une question un petit peu cruelle. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi je me suis intéressé au langage dès le départ. Peut-être parce que je ne me sens pas spécialement doué en conversation. Peut-être que je me suis mis un peu plus en retrait pour étudier ce que faisaient les autres. Alors, fort de ce savoir-faire, est-ce que je suis un meilleur conversant ? Peut-être un moins mauvais conversant par moment. Hein.
Parlez moins pour ne rien dire,
oui,
peut-être ?
Oui, je ne sais pas, mais j'ai toujours, de toute façon, été très, très impressionné par la capacité narrative de mes amis, qui sont souvent bien meilleurs que moi. Moi, ayant vécu la même histoire, les mêmes événements qu'un autre, je vais les raconter en trois phrases, là où un de mes amis va tenir la parole pendant cinq minutes. Et moi, je suis vraiment très impressionné par ces capacités que je n'ai pas. Mais voilà, donc ça n'a pas beaucoup changé ma pratique, je reste spontané au quotidien.
Alors pour conclure, Jean-Louis Dessalles, on est des hommes parce qu'on parle ou on parle parce qu'on est des hommes ?
Oui, alors, ok, un peu les deux. Hein, c'est-à-dire que si L'ordre des événements, pour moi, c'est vraiment l'être humain, c'est un primate qui a inventé le javelot, c'est-à-dire un moyen de tuer l'autre dans le dos ou pendant son sommeil. Et ça, ça a complètement bouleversé toutes les règles sociales
et
en
voilà
vigueur chez les primates.
S'est mis à parler.
Voilà pourquoi on s'est
ça,
mis à
votre,
parler.
Votre thèse,
c'est
votre
pas aussi simple que ça. Il y a des étapes. On a parlé de Bickerton tout à l'heure avec une étape intermédiaire par le proto-langage. Il faut expliquer tout ça. C'est un travail. Mon travail à moi à Télécom Paris Tech consiste à faire des simulations sur ordinateur, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour montrer que les scénarios sont cohérents en interne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont corrects, simplement qu'ils sont cohérents. Donc c'est grâce à des simulations sur ordinateur qu'on montre que des petits agents qu'on va simuler vont avoir intérêt à montrer leur capacité informationnelle aux autres agents.
En parlant, merci beaucoup Jean-Louis Dessalles. Comme on ne peut pas faire le tour de cette question en une heure d'émission, ne serait trop conseillé à nos auditeurs de se plonger donc dans votre livre coécrit avec Pascal Pic et Bernard Victory, Les origines du langage, aux éditions du Pommier. À citer aussi La langue d'Adam, le dernier livre de Derek Bickerton, paru chez Dunod et que vous avez préfacé. Merci d'être venu, Jean-Louis Dessalles, nous parler du langage.
Merci
dans notre
à vous.
Studio.
Merci.
Pour continuer la discussion, retrouvez-nous sur le réseau social Facebook autour de la question.
Demain, on se demandera à quoi nous sert le sport. Alors à demain, chers auditeurs, on attend vos questions avec Guillaume Plequin à la réalisation et Pierre Vallée. D'ici là, portez-vous bien et continuez bien sûr à vous poser plein de bonnes questions. Dans quelques instants, les informations sur la Radio Mondiale.